1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je te laisse la mentale.
Eh oui, chers auditeurs, vous êtes bien sur l'émission des Décadrés sur PFM 99.9. Ouhou. Bonjour Ange, bonjour. Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Bah moi ça va, bonjour Benjamin, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien et toi?
On est plein de joie aujourd'hui.
Bah ouais, je vois ça, mais ça va être une émission très agréable, je pense.
Oui.
Alors petite aussi précision, on ne sait pas trop ce que chacun a décidé de faire comme sujet.
Si, moi je le sais.
Ah, tu connais mon sujet?
J'ai la
oui, il a l'ordre, moi, c'est un tricheur.
C'est vrai qu'il est en technique.
C'est vrai que je gère la musique.
Il a le droit de tout voir, c'est exact. Mais du coup, moi, je ne connais pas les sujets de Ange ni celui de Benjamin. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Mais avant, on va commencer par le début de l'émission, les fameuses news de Ben.
Ouais, aujourd'hui, les retours des news, c'est assez étonnant. la news numéro 1.
Il en est fier.
On a Gears of War, donc le jeu vidéo édité par Microsoft et développé par Epic Games, donc qui est sorti en 2008.
Ouais.
Donc qui va avoir son adaptation en film.
Ça, c'est cool ça.
Et c'est Universal Studios qui va s'occuper d'adapter donc cette histoire de soldats se battant contre des aliens qui s'appellent les Locustes,
ouais.
Chez lesquels donc ils ont provoqué des mutations et des milliers de morts en exploitant les sols miniers de leur planète qui s'appelle Serra. Avant de former une alliance pour la paix, les humains se tapaient sur la gueule pour obtenir l'énergie de la planète. Bon bah pour Universal, ça leur fait leur deuxième franchise adaptée de jeux vidéo avec Warcraft. Et à voir si le studio ou l'éditeur à l'origine du jeu vont s'investir dessus ou si le studio sera libre d'exploiter la matière créative. Peut-être à l'image des humains avec les ressources de la planète Serra d'ailleurs, c'est-à-dire c'est n'importe quoi. Et à noter qu'un quatrième volet vidéoludique va débarquer sur Xbox One et PC ce mercredi 11 octobre.
Ah,
Gears of War 4, pardon.
Gears of War débarre, Gears of War. J'ai passé très bon moment
Oui.
Faire les modes horde, c'était très... très jouissif.
Il y a The Division qui a été mise en production par Ubisoft, officialisé au casting Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal, et le film va arriver pour 2017. Mais on a pas de réalisateur, je crois même pas qu'on a un scénario. Enfin, à part le scénario du jeu.
Ouais, c'est un film qui se fait tout seul.
Ah, c'est une spéculation ou c'est vraiment...
Non, ça a été officialisé.
D'accord,
mais...
ok.
Voilà. On a aussi appris que Suicide Squad allait avoir son Extended Cut avec 13 minutes de plus. Alors on ne sait pas s'il va y avoir un remontage complet du film, ce qui ne serait pas surprenant tant le montage au cinéma a été pointé du doigt comme étant un gros défaut du film par beaucoup de spectateurs, fans de comics,
ouais, beaucoup de gens
ou
parlent
cinéphiles.
De clips
Ouais, et par les critiques,
ouais.
En fait, bon, bah, par beaucoup de gens.
Moi, je ne l'ai pas vu.
Autre point, on nous annonce donc 13 minutes de film en plus. Je suppose qu'il va y avoir plus de séquences avec le Joker et Harley et un poil plus de présence pour la majorité des membres de l'équipe qui sont sous-exploités. Et le mot est très très faible pendant le film. Par contre, Leto avait tout de même raconté qu'il y avait 30 minutes de scène avec le Joker qui n'ont pas été montées. Donc on peut être sûr de ne pas les voir intégrés au film, ce qui est assez dommage. Bah, notamment pour étoffer le travail de ce nouveau Joker qui a été présenté comme un cheveu sur la soupe ou introduit comme une hache dans l'estomac. Ouais, dans tous les cas, ça fait mal. Bref, voilà.
Bah, un cheveu dans la soupe, c'est pas douloureux, normalement.
Non, mais ça gratte.
Bon, du coup, merci Ben pour cette petite news.
Moi, ça m'a fait plaisir de rentendre la musique.
Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps.
Ouais, c'était un peu de nostalgie, un peu de mélancolie, mais beaucoup d'amour sur PFM.
C'était gay.
Comme Jurassic World.
Bon, du coup, sur cette magnifique vanne qui va nous servir de transition, on va enchaîner sur la première chronique de l'émission Ange.
Ah oui, tout à fait. Alors, je ne vous cache pas, chers amis, qu'au début, quand je me suis installé devant mon PC et que j'ai commencé à écrire cet article, il ne concernait pas du tout un film, mais plusieurs, en particulier un festival. Mais je me suis rebiffé parce qu'il n'y a pas si longtemps, un film que j'ai beaucoup aimé. Et pour découvrir ce que c'est, je vous donnerai que deux indices. Deadpool et ceci.
We'll be right back.
Alors, vous avez trouvé le lien entre les deux éléments ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Donc je vous rappelle Deadpool et Inspecteur Gadget.
Tout ce que je sais, c'est que là, il y a la musique de Go Gadget qui m'est rentrée dans le crâne. Là, ça gigote dans toute ma tête.
Tu peux me remercier grandement, je trouve.
Ah bah, merci.
C'est un plaisir de l'avoir parce que je l'ai eu toute la journée dans la tête, moi aussi.
Exactement.
Alors, je vous donnerai qu'un titre, en fait, qui est La folle journée de Ferris Bueller.
Ah !
Et oui, un film de 1987 réalisé par John Hughes.
Et pourquoi Deadpool, du coup ?
Ah bah attends, je vais vous expliquer. Donc, scénariste... John Hughes, scénariste des 101 Dalmatiens et Maman j'ai raté l'avion, ou même Beethoven. Donc la folle journée de Ferris Bueller, disais-je donc, avec dans le rôle principal Matthew Broderick, notre très cher inspecteur gadget. Et là, vous me demanderez quel est le lien avec Deadpool.
Quel est le lien avec Deadpool ?
Alors, pensez générique de fin, peignoir rayé, et surtout, ceci.
C'est fini. Rentre chez toi. Ah, t'attendais un teaser pour Deadpool 2 ? Bah t'es gentil, mais on n'a pas le budget. Et puis quoi encore ? Samuel Jackson, peut-être ? Avec son patch de pirate et son petit pantalon tout cuir ? Allez, dehors. Ah, il y a quand même un truc, je te le dis, mais c'est un secret. Pour le 2, on va avoir Cable. Un personnage de fou, bras bionique, voyage temporel. Il n'est pas casté encore, ça peut être qui on veut. C'est un grand mec à la tête un peu plate. Mel Gibson, Dolph Lundgren, Keira Knightley... Elle fait des contre-emplois, non ? En tout cas, c'est un secret. Chut. Ah, et laisse pas toutes tes saloperies sur les sièges. Faut être un total jus de bite pour faire ça.
Alors là... je vois, il y a Antoine et Benjamin qui, pendant le passage de ce petit passage, disent qu'ils ne comprennent pas du tout cette scène. En fait, cette scène,
ouais,
c'est une totale inspiration de la scène de fin du film La folle journée de Ferris Bueller. Ferris Bueller revient à la fin du film et parle directement au public en peignoir rayé, avec exactement le même truc.
Quand nous, on pensait, tu vois, à Deadpool 2, du coup, on se disait peut-être qu'il y a La folle journée de Ferris Bueller 2 qui va arriver.
Non, non, je parlais juste de la scène. Le lien, c'est la scène. Pourquoi Deadpool, tu vois ? C'est juste ça.
Okay.
Bah, j'aime te l'expliquer là.
Ok.
Ah, mais c'est hyper pointu comme précision.
Ah bah, oh, faut un petit jeu quand même.
C'est... Ouais, non, c'est vrai que c'est subtil, c'est bien fait.
C'est au moins vous re-regarderez Deadpool et vous pourrez vous dire à la fin, c'est vrai que c'est Ferris Bueller en fait. Ils se sont totalement inspirés. Il a exactement le même peignoir, le même décor, c'est exactement pareil.
Je suis persuadé que ça a déjà été fait avant Ferris Bueller même. Ah, peut-être.
De quoi ?
Bah, cette séquence de post-générique où le gars dit, allez, barre-toi de la salle, ça a dû déjà être fait.
Je sais pas, Malcolm le fait, mais.
Ouais, mais bon, là.
Mais enfin, voilà, c'est juste le lien avec le film, en fait.
C'est une référence.
C'est juste la référence.
Alors vas-y.
Donc, la folle journée de Ferris Bueller, je reprends, mais qui est-il ce petit père ? Donc, il s'agit tout bonnement d'un adolescent qui veut profiter de sa jeunesse et prendre une journée de bon temps avec son meilleur pote et sa petite amie plutôt que de se rendre au lycée. Mais comment va-t-il s'y prendre ? Et ben en faisant croire à tout le monde qu'il est malade. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ses parents, ses amis du lycée, le lycée entier et même la ville entière. Donc tout le monde, à part sa sœur qui lui en veut pendant tout le film et son proviseur qui veut absolument le coincer, pense qu'il est à l'article de la mort. Donc c'est un sujet bien connu que la jeunesse préfère s'amuser plutôt que d'étudier, mais sincèrement ce n'est pas le côté le plus intéressant du film, même si cela en fait un très bon film familial devant lequel se poser pour rire un grand coup. Donc le personnage est tout d'abord une mine d'or d'intelligence et de philosophie dans lequel on retrouve beaucoup du personnage de Malcolm, que je ne présente plus, puisque vous connaissez déjà tous.
C'est qui ?
Je sais pas. C'est un ado qui est chiant, très intelligent, qui est dans une série avec Bryan Cranston. Ouais, mais c'est pas le sujet de ma chronique, du coup j'en parlerai pas.
Parce que Ferris Bueller, il est très riche.
Ouais, bah, c'est un américain riche.
Il y a de la thune à mort.
Oui, voilà, mais c'est pas le sujet du film. Donc certes, Ferris peut être considéré comme un cancre, mais il développe une intelligence surnaturelle lorsqu'il s'agit de faire croire à tout le monde qu'il est malade. Donc ronflement préenregistré ne se déclenchant qu'à l'ouverture de la porte avec un système de levier pour faire bouger un mannequin dans le lit, répondeur de sonnette automatique, et j'en passe. Mais surtout, toutes ces petites astuces, il les adresse à nous, public. Et c'est là le lien parfait avec Deadpool, en fait, l'explication. Voilà, il brise l'écran pour nous parler directement, nous présenter ses amis, expliquer comment il met en place son plan. Bon, certes, dans ces passages-là, le jeu d'acteur n'est pas parfait, enfin, en particulier, le doublage français est un peu pourri à ce niveau-là, mais c'est amusant de se dire que l'on accompagne vraiment le personnage pendant son aventure, jusqu'à ce qu'il nous dise de nous casser à la fin, tout simplement. Donc il s'agit d'un film où l'amitié est mise à rude épreuve sur fond de philosophie de la vie, chose que l'on entend très souvent de nos jours, mais bon, c'est quand même en 1987, très drôle, en particulier grâce aux références cinématographiques qui se trouvent dedans, et je n'en citerai qu'une, Star Wars. Je vous laisse chercher les autres, hein, vous inquiétez pas. Il y a même, vous pouvez chercher des références ou même des... Merde, j'ai oublié le mot, des acteurs très connus qui se retrouvent dedans alors qu'on s'y attendait pas du tout. Ils ont peut-être un rôle de figurant ou juste comme ça donner 2-3 répliques. Donc un film jeune qui a très bien vieilli, je trouve, et qui se place dans votre DVD tech si vous voulez un bon petit moment de détente, seul ou en famille. Enfin, en tout cas, moi, je me suis régalé et tous les conseils donnés dans ce film sont bons à prendre. Donc lycéen, voici le mien d'ailleurs, si vous voulez sécher, assurez-vous que vos parents n'aient pas vu le film avant d'en utiliser les méthodes. Donc sur ce, bon vent à tous et passez une folle journée.
Ah, alors, Ferris Bueller, Antoine.
Comment ?
Tu voulais pas reprendre dessus ?
Non, pourquoi ?
Ah, j'étais sûr.
Oui, il avait envie que tu dises un commentaire.
Ah non, 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 je...
Non, moi, je trouve que c'est un vrai film de John Hughes, parce que déjà, c'est un film avec les Américains assez moyens, mais assez... quand même avec beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de moyens, quoi qu'il arrive. Il s'amusent toujours avec l'argent. Enfin, tu vois que c'est quelque part tout leur monde. Ils en font un monde de l'enfance infini.
Bah, puis ils sont très naïfs au final. Enfin, surtout Ferris, qui paraît très intelligent. Au final, il se retrouve, à laisser sa voiture dans un garage en se méfiant pas. C'est il ça. Donne du fric et puis voilà. Il sait pas du tout ce qui peut se passer à la bagnole du père de son pote. Quoi. Donc.
Oui. Un beau film de, enfin, chouette film de John Hughes, intéressant. Je pense qu'on en reparlera un de ces quatre.
Oui.
Et maintenant, Antoine va nous faire une chronique, dont je ne sais rien.
En fait, aujourd'hui, on s'en fout de savoir ce que font les autres.
Non, allez, vas-y. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vas-y. Mais oui, voilà, chers amis, chers auditeurs, nous voici de retour sur les ondes du 99.9 en compagnie de mon équipage adoré, les Décadrés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment ma mutuelle m'a braqué mon compte en banque, de comment ma voiture m'a lâché en allant au travail, et comment envie de destruction s'est emparée de moi au point de vouloir causer la mort et la destruction autour de moi.
Chute libre. Ah non.
moi j'ai reconnu.
Et c'est ainsi que pris d'une lubie, je m'installe dans mon fauteuil en fin de soirée et que je décide de m'attaquer à un gros morceau de série, Dexter. Alors oui, vous avez certainement reconnu le thème principal du film pour la plupart d'entre vous, et pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, qu'à cela ne tienne, je vous invite à découvrir la série. Alors bon, je reconnais que c'est bien gentil de ma part de vous vendre la série, mais vous devez quand même vous demander c'est qui Dexter, pour ceux qui ne connaissent pas, ou plutôt ce cher Dexter, pardon.
Moi je connais le laboratoire de Dexter.
Ouais, ça marche aussi. On y pense, en plus ils sont tous les deux roux.
Mais il y en a un qui est petit et des lunettes.
What the coïncidence.
Et ils ont tous les deux une sœur.
Mais ils sont très énervés.
C'est vrai, ils sont très énervés. Mais du coup, Dexter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, en fait, il s'agit d'une série de romans publié en 2004 par Jeff Lindsay et qui s'appelle à la base ce cher Dexter. Alors l'histoire de Dexter, c'est l'histoire d'un flic expert médico-légal spécialisé dans les traces de sang le jour, et en fait il est tueur en série la nuit tombée, un serial killer qui est pas comme les autres puisqu'il s'attaque uniquement aux criminels ayant réussi à s'échapper du système judiciaire. Alors après je pourrais aussi vous parler de Michael C. Hall qui incarne le rôle de Dexter et vous dire à quel point il fait un énorme travail sur son personnage, il est fabuleux. Et vous dire aussi que le créateur James Manos a eu une excellente idée en adaptant la série de romans en série télévisée. Ou alors, je peux aussi vous dire la vérité et vous dire à quel point cette série qui a connu un fort succès lors de ses débuts s'est retrouvée en liste des séries délaissées par ses propres concepteurs. Je pense que, tu confirmes, on en avait parlé. Et du coup, voilà, la série s'est dégradée en termes de qualité. Normalement, la série était censée s'arrêter à la saison 4.
Mais les autres, les studios ont voulu continuer.
Ouais, voilà, et en fait, il faut savoir c'est que la saison 7 et la saison 8 sont regroupées en fait.
D'accord.
Puis en fait, elles amènent à la fin.
Mais c'est qui la chaîne qui s'occupait de ça ?
C'est Showtime.
Ah, ouais.
Ça a été lancé en 2006 par Showtime aux États-Unis. Et donc, comme je disais, 8 saisons auront tout de même eu raison de la célèbre et non moins acclamée. Enfin, de la série plutôt. Ouais. Et malheureusement, entre ses débuts prometteurs et l'ultime épisode de la série, en fait, il semblerait que celle-ci se soit éteinte. En même temps, il n'est pas chose aisée, c'est vrai, de finir une série qui possède 8 saisons. C'est très conséquent. Surtout quand on accumule autant de personnages qui passent aussi au second plan. Genre les personnages comme Batista qui disparaissent, on s'en fout, quoi. Ils n'ont plus leur mot à dire, aucune importance. Et aussi, on ressent vraiment le manque d'enthousiasme dans laquelle celle-ci a été terminée, quoi.
Et puis c'est surtout aussi que ça garde principalement le même arc scénaristique et ça s'essouffle énormément au bout de 4 saisons, ça c'est sûr.
Mais voilà, c'est ça. C'est la scénarisation d'un personnage qui est aussi, entre guillemets, charismatique que celui-ci, demande quand même beaucoup d'efforts, faut de l'innovation. Et en fait, la série, au fur et à mesure, elle a oublié ça en fait. Mmh. On est dans une éternelle indécision. Est-ce qu'il faut humaniser le personnage de Dexter? Est-ce qu'il faut en faire un monstre cruel? C'est deux questions posées, mais en fait qui restent à jamais sans réponse.
Il est sentimental, c'est-à-dire qu'il ressent pas les sentiments ou un truc comme ça.
Oui, mais après c'est un psychopathe, c'est un tueur en série.
Ouais, puis il travaille là-dessus en fait au fur et à mesure quand même dans la série. Et
puis la question, c'est est-ce que sa sœur va le choper? Je crois que sa sœur est policière, c'est pas ça?
Ouais. C'est ça.
Bah, t'as ce suspense là qui naît tout le long de la série, puis au final quand, enfin.
Arrêtons de spoiler.
Non, mais je spoile pas, mais en fait c'est un travail qui se fait en fait au fur et à mesure et qui se fait sur plusieurs saisons, alors qu'au final quand tu remarques il aurait pu se faire en une saison en fait. Ouais. Et c'est dommage. C'est ça qui a participé à l'essoufflement, je trouve, de la série aussi, quoi.
Ouais, même s'il faut reconnaître qu'au final, l'épisode final de la série, en fait, il est quand même plutôt distrayant. Il propose une fin assez cohérente avec l'ensemble de la série, en fait. Du coup, c'est vrai que ça va. Mais pourtant, en fait, on ressent aucune souffrance dans l'épisode, en fait. Ouais. Ça s'éteint. C'est vraiment.
Tu sens que c'était la fin, quoi. Il
fallait que ça se finisse. C'était complètement essoufflé. C'était comme prendre à faire un sablé et il se désable.
Il se désable.
Il faut dire qu'il perd de son souffle.
Est-ce que ça va très très vite dans le dernier épisode? Est-ce que par exemple, pour clore les arcs, c'est hyper rapide?
Non.
Ah ouais?
Ils prennent deux saisons quand même.
Ah ouais.
La 7 et la 8, c'est 12 épisodes en plus. Et c'est un énorme condensé. Et
je suis même pas sûr que dans la 6 aussi, il commençait déjà à partir là-dessus.
Ça fait longtemps, mais... Ok. Mais voilà, au fur et à mesure des saisons, et donc plus précisément, à partir de la saison 4, en fait, on rentre dans un systématisme dans lequel le personnage de Dexter est confronté en fait, à un nouvel adversaire. C'est souvent ça à chaque saison.
Nouveau tueur.
Qui lui permet aussi de se révéler sur lui-même, donc faire une espèce de psychanalyse.
Ouais.
Alors, c'est une idée intéressante qui peut marcher dans un développement de personnage au début pour le construire. Mais en fait, malheureusement, le fait est que ça s'essouffle complètement tout au long de la série, puisqu'on finit en fait par tourner en rond. Donc sexe, amour, famille, amitié, t'as tout qui passe, la morale, enfin tout, et c'est pour ça qu'en fait on se lasse, et malgré la performance des acteurs, en fait il devient difficile de s'accrocher à la série. Mais bon, Dexter restera quand même un très bon souvenir, une série pleine de promesses qui aura su me faire rêver quand même le temps de 4 saisons. Et voilà, la folie meurtrière nous est enfin passée.
Alors, je voulais préciser, revenir sur un élément que Benjamin a dit. Dans la série Dexter, ce n'est pas tout le temps un tueur à chaque série contre qui...
Chaque saison,
devant lequel Dexter se retrouve. C'est un ennemi.
Mais parfois, il y a des tueurs, c'est ce qu'il me disait.
Il y a des tueurs. Bah, en même temps, il fait des enquêtes policières, donc il se retrouve
aussi
forcément...
Des agents de police...
Ouais, voilà. Okay. C'est pas forcément des assassins, quoi.
Voilà. Du coup, maintenant, justement, Benjamin qui s'est trompé tout à l'heure et que Ange a repris, tu vas, pour te faire pardonner...
Faire une chronique.
Une transition avec une rime et tout, non. Mais j'ai trop parlé.
Alors,
t'es pas dans le flow.
Non, pas du tout.
Blade Runner 2049. Voici le titre du prochain film Blade Runner. Et ouais. Le premier, donc, qui est chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction, même du cinéma tout court, donc, qui a une histoire assez tumultueuse que j'évoquerai après, donc, qui a été réalisé par Ridley Scott en 1982, avec Harrison Ford dans le rôle-titre, soit un Blade Runner, un genre de flic-tueur qui doit éliminer, retirer, comme ils disent au début du générique, les réplicants, donc, qui sont des androïdes plus humains qu'humains, comme leur disait le créateur, Monsieur Tyrell. Et pour aller très vite, le film était l'adaptation du non moins génial roman de Philip K. Dick, d'où The Android Dream of Electric Sheep, en français c'est Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?
C'est une très bonne question, on ne se la pose jamais
mais
assez.
Je peux vous dire que le livre est génial, il faut le lire. Et du coup, où va nous emmener la suite ? C'est ça la vraie question, parce qu'on sait qu'il y a eu des suites en roman qui ont été écrites par K.W. Jeter, qui est un ami de K. Dick. Il y a eu 3 suites exactement, alors est-ce que le film va les suivre ? Mystère. Bon, moi j'en doute. En tout cas, je pense qu'on peut être un poil rassuré car on a Upton Fincher, donc qui est l'un des co-scénaristes du premier film. Donc il a écrit précisément la première version du film qui a été réécrite par David Webb Peoples. Puis Fincher a quitté le navire pour revenir peaufiner le tout. Donc Ford a dit quand même que le script du deuxième Blade Runner était le meilleur script qu'il avait jamais lu. Mais faut voir s'il ne devient pas gâteux quand même. Par contre, on a dans le casting Ryan Gosling dans le rôle principal, Jared Leto, Carla Drury, Dave Bautista, et là, j'ai assez hâte de le voir.
Bizarrement, il y a le sourire qui s'est effacé sur la tête d'Antoine quand t'as dit Jared Leto. Ouais,
Je ne vois pas du tout quand vous parlez.
Harrison Ford, de retour dans la peau de Descartes, et qui serait apparemment le mystère du film, à tel point qu'on ne le verrait que vers la fin.
Wow.
Mystère. En effet, alors là, attention.
Il sera tué par un Kylo Ren.
Attention. Ce que Ridley Scott dit, Rick est-il un androïde ou un humanoïde ou tout simplement un humain ? Et avant d'ajouter qu'il respecterait le mystère du premier film. Bon, on va pas se mentir, à un moment donné, il a dit non, c'est un androïde. Bon, on verra s'il respectera plus le mystère dans le deuxième. D'ailleurs, Scott produit le film, mais ne le réalise pas. En effet, il doit être beaucoup occupé par son travail sur Alien Covenant, qui sortira l'année prochaine d'ailleurs. Et la place du réalisateur a été donnée à un brillant cinéaste. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux pour un tel film. C'est Denis Villeneuve. Donc il est réalisateur de Prisoners, d'Ennemis, d'Incendie, de Sicario et du prochain Arrival, donc, qui est en français Premier Contact, qui va arriver dans les prochains mois et qui a déjà été découvert lors des festivals et présenté comme la critique, comme le nouveau chef-d'œuvre de science-fiction. Donc, on a hâte, et à la musique Exit Vangelis que vous entendez en ce moment.
Ah oui.
Et place. Attends, c'est dommage. Et place à.
Ah non, mais moi j'aime bien Vangelis, t'as dit juste j'ai entendu Vangelis, j'ai fait ah oui, j'adore.
Ah d'accord. Oh, oui. Parce que là, il sera pas la. Il sera pas la bande-son du deuxième.
Ah.
Non, c'est.
Ah bah, j'ai pas bien écouté.
C'est Johan Johansson qui est le compositeur de Prisoner, Sicario, Arrival.
Ah bah, tant que c'est pas le mec qui a fait la musique du dernier James Bond, moi ça me va.
Non, mais il y a une cohérence en tout cas dans ce choix-là. Ouais. Aussi, si la production du premier film et son montage ont été de longues et très difficiles aventures, ça vous en souvenez ?
Oui.
Bah, Scott, il a pas eu le final cut jusqu'en 2007 parce que voilà, le film a connu 7 versions avant que Scott puisse achever son chef-d'œuvre. Et retrouver ses droits dessus, hein. C'était le studio, la Warner Bros. Qui faisait n'importe quoi. Et comme d'habitude, avec Suicide Squad notamment. Et, et bien,
c'est pas bien de lancer des petits pics comme ça.
Et Warner, ils vont nous attaquer là, attention, ils vont débarquer.
Non, mais c'est pas sympa.
Il faut pas peur, je le dis.
Moi je trouve que t'es pas assez optimiste.
Au secours,
et bien, la production de Blade Runner 2, elle devrait bien se passer avec Scott à la production, mais aussi les producteurs de Villeneuve qui le suivent depuis quasiment tous ses films. Alors, même s'il y a eu un mort sur le tournage, écrasé par un décor du film, oui.
C'est ça que j'avais vu, ouais. Oui.
D'ailleurs.
Et donc, du coup, ça le fait sourire, mesdames et messieurs, vous le dis à la radio.
Non, mais c'est parce que sourire, même s'il y a eu un mort, quelque part, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et le réalisateur.
Ça peut pas se passer plus mal.
Non, ça c'est clair. Mais le réalisateur a dit, par contre, qu'il n'y aurait pas le final cut sur ce film. Il l'a annoncé. Mystère. Mais il s'est expliqué, et en fait, c'est plutôt rassurant. Il a dit, tout d'abord, il est impossible de surpasser l'original. C'est Ridley Scott. C'est l'un des meilleurs films de science-fiction et l'un des meilleurs films de ces 50 dernières années. Ce qui me terrorise actuellement, c'est que je suis en train de faire de Blade Runner un de mes films. C'est angoissant. Quand je regarde les rushs quotidiens, je sais que ce n'est pas du Ridley Scott, pardon. C'est mon style, c'est différent. L'univers est commun, on partage le même rêve, mais c'est ma vision. Je n'ai aucune idée de la manière dont vont réagir les gens. Ce film a sa propre vie. Il continue. J'ai accepté de le faire parce que les producteurs derrière Blade Runner 2 sont des amis. J'ai fait Prisoners avec eux et je savais qu'ils me créeraient un environnement de travail très rassurant. Je n'ai pas vraiment le final cut sur ce film. Ce que j'ai compris à propos du final cut, c'est qu'il s'agit du pouvoir du meilleur montage. Et là, attention, c'est très fort. Je n'avais pas le final cut sur Prisoners et ce que vous avez vu était le meilleur montage. Sicario est un director's cut, Premier Contact est un director's cut. Ma relation avec les gens avec lesquels je travaille est très solide et au bout du compte, celui qui gagnera sera le meilleur film. Ça, je trouve ça plutôt intéressant quand même. Ouais. Parce que c'est pas... C'est voir le final cut, le director's cut, comme un outil créatif plutôt que comme une nécessité d'ego d'auteur, comme ouais, on peut sûr, le voir ouais. aujourd'hui. Et du coup, par ailleurs, Scott a ajouté ceci, il ne s'agit pas d'une stupide suite, c'est une continuation qui a du sens, qui apporte un plus à cet univers. Le scénario est très très bon. Bah, ça forcément, il ne va pas dire que c'est de la merde. Mais... bon. Et pour terminer cette chronique, oui, sans doute. Pour terminer cette chronique, je vous laisse donc avec la musique, une autre musique de Vangelis, qui est le titre One More Kiss, Dear,
oui
de la bande-son de Blade Runner. Alors Blade Runner 2049, sorti annoncé le début octobre 2017, le 4 octobre en France et le 6 aux États-Unis. Bonne écoute.
Et sur ces petits mots, on va se dire au revoir.
Oui, on va se dire au revoir, mes chers aussi. Amis décadrés Benjamin, au revoir.
Au revoir.
Amis décadrés Ange, au revoir.
Et salut.
Merci pour cette émission, merci de nous avoir suivis sur PFM 99.9. Vous pouvez nous retrouver donc sur Mixcloud et aussi le samedi en rediffusion. À quelle heure déjà, Ben?
13h.
13h, c'est bien ça. À bientôt les amis.
À bientôt.
À bientôt.
Love. De l'amour. Only this, dear, is goodbye. For our love is such pain and such pleasure that I'll treasure. So for now, dear, au revoir, ma belle. But I vow, dear, not farewell. For in time we may have all love's glory. A love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories, they will return. As will I, like the sun, dear, upon high, will return, dear, to the sky, and will banish the pain and the sorrow.
Kiss, dear, one more sigh, only this, dear, is goodbye, for our love is such passion, such pleasure. I will treasure.